Quel est le lien entre l'environnement bâti et la diversité sexuelle et de genre? Oui, l'architecture n'est pas qu'une question de plans, de briques et de ciment, et plusieurs architectes ici et ailleurs s'intéressent à la question. Et ça ne date pas d'hier, l'étude de ces liens entre l'environnement bâti et les communautés queer remonte aux années 80. Pourtant, en 2025, l'impact de ces réflexions sur la création d'environnements urbains et architecturaux plus inclusifs reste somme toute limité. Pour en discuter, Olivier Valérand est professeur agréé de la Faculté d'aménagement à l'École de design à l'Université de Montréal. Bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, à chaque fois qu'on a un nouvel invité, on lui demande quel pronom et accord il utilise. Alors, tous les accords et les pronoms masculins?
Oui, exactement.
D'accord. Alors, comment définir la notion d'espace queer dans un contexte architectural et urbain?
C'est une excellente question. C'est une question qui est assez difficile à répondre. Là, il y a des gens qui vont l'approcher plus d'un point de vue formel, des choix de couleurs, des choix d'image. Pour moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la notion de l'utilisation de l'espace, de penser à concevoir des lieux qui permettent une plus grande diversité d'usages, qui reconnaissent des usages qui sont hors normes. Souvent, on va en parler, donc justement, j'entendais dans l'introduction l'idée on en parle depuis les années 80. C'était souvent une réflexion qui était historique sur l'utilisation passée de certains lieux. Donc, par exemple, parler de bar gays, de lieux de cruise, de regarder les maisons de personnes gays et lesbiennes et d'essayer d'identifier certaines idées autour de ça. Mais pour moi, il y a aussi une réflexion qui est très importante sur, par exemple, l'accès à des lieux genrés comme les toilettes publiques, donc c'est un sujet dont on entend quand même assez souvent, mais aussi la notion de patrimoine, d'identité liée à un quartier, donc quelque chose comme le village gay à Montréal. Si on parle de quartier chinois, on parle de quartier ethnoculturel, c'est un peu la même idée de venir avoir des éléments symboliques dans l'architecture et la ville qui permettent à certaines communautés, comme les communautés LGBTQ, de se retrouver. Puis si on parle juste à l'exemple de l'importance que Stonewall, donc un bar, a eu dans l'histoire des communautés LGBTQ, bien on comprend cette relation entre l'architecture et l'identité.
Alors, quels sont les principaux obstacles à la création d'espaces véritablement inclusifs pour la diversité sexuelle et de genre?
Bien, un des premiers obstacles, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Dans les écoles d'architecture, dans les écoles de design, dans les écoles d'urbanisme, c'est vraiment pas un sujet qui est particulièrement développé. On est très peu de professeurs dans le monde à s'intéresser à ça. Là, moi, je fais partie d'un réseau à travers le monde, puis on est peut-être une trentaine qui travaille là-dessus, c'est nos recherches. Puis c'est encore plus le cas dans les milieux francophones. Là. Il y a vraiment, vraiment peu de gens, mais ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'intérêt de la part des étudiants. Donc, je pense qu'il y a une relève qui s'intéresse à créer des lieux plus inclusifs. Mais comme pour toute forme d'homophobie, de transphobie, c'est beaucoup lié à une peur de l'inconnu. Hein. De faire des transformations dans l'espace public, faire des transformations dans l'architecture, ça implique un grand pas, ça implique une transformation. Puis, on peut avoir peur de ça. Donc, ça, je pense que c'est un des obstacles. L'autre obstacle, c'est qu'il y a quand même des tensions dans la notion de sécurité, d'espace sécuritaire. Par exemple, si vous demandez à plein de monde de vous dire c'est quoi un espace où vous êtes en sécurité, bien, on va vous répondre des choses très différentes. Puis parfois, c'est en tension envers l'autre. Donc, par exemple, si je pense, je vous donne un exemple, des personnes en situation d'itinérance, LGBTQ, par exemple, qui voudraient avoir de l'intimité, là, un couple de jeunes LGBTQ qui veulent avoir de l'intimité, mais ils vont peut-être dire, OK, pour moi, un parc, c'est un lieu sécuritaire où je peux embrasser mon chum ou ma blonde, mais pour une autre personne, de venir marcher dans le parc, puis tout à coup d'avoir des gens qui s'embrassent, ça peut représenter quelque chose qui fait peur.
Oui.
Donc, cette notion-là. Même chose autour des toilettes publiques.
Oui.
De dire, OK, j'ai des toilettes non genrées, c'est plus sécuritaire pour certaines personnes, mais pour d'autres, par exemple, une mère va pouvoir dire, je ne veux pas que mes enfants se retrouvent avec toutes sortes d'autres personnes. Donc, c'est toujours cette notion de gérer les besoins différents de différentes personnes qui crée, entre autres, un de ces obstacles-là.
Comment expliquer là, que ces réflexions-là ont eu un impact limité? Ça fait quand même un bout de temps que ça existe. Est-ce que c'est une question de volonté politique? Est-ce que c'est une question de financement, de méconnaissance? On en a un petit peu parlé au sujet de ce milieu architectural.
Bien, c'est ça. Une des raisons, je pense, c'est qu'il y a peu de monde, même si on dit que ça fait plusieurs décennies qu'on en parle, il y a quand même peu de monde qui en parle. Mais l'autre notion, c'est des projets architecturaux, des projets urbains, ça demande beaucoup d'argent. Juste n'importe qui construit une maison se rend compte que rapidement, ça coûte de l'argent. Donc, quand on parle d'infrastructures publiques, de bâtiments publics, on est dans des très, très, très gros moyens. C'est des projets qui prennent du temps. Donc, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible de prendre des risques, d'explorer des solutions innovantes, d'explorer des choses qu'on n'a pas faites avant. Mais ces changements-là prennent beaucoup de temps. Puis, c'est pas juste le cas pour les espaces queer, les espaces qui s'adresse à des personnes LGBTQ, c'est de façon générale, les transformations dans l'architecture prennent.
Oui, on a manqué la fin de la réponse. J'espère qu'on n'a pas
Oh.
un problème de son. Juste pour conclure, est-ce qu'on a des exemples de projets réussis qui incarnent les principes d'inclusivité?
Oui, ben en fait, je parlais au début de toilettes publiques. Il y a des exemples un peu partout dans le monde, autour de la dernière décennie, qui ont exploré des toilettes plus inclusives. Il y a par exemple l'université Gallaudet aux États-Unis, qui est une université qui est pour les personnes sourdes-muettes. Donc, qui avait à cœur un désir d'inclusivité. Donc, ils l'ont fait aussi dans des toilettes non genrées. Donc, ils ont testé ça. Ça fonctionne super bien. Concordia, ici à Montréal, a fait la même chose, a exploré plusieurs exemples de toilettes pour régler ça. Un autre exemple que j'aime bien, c'est la Friends of Ruby Home à Toronto, qui est une résidence pour jeunes LGBTQ à risque d'itinérance ou en itinérance. Donc là, il y a des changements dans les formes, l'organisation des espaces, parce que souvent les espaces, les refuges pour personnes itinérantes sont des espaces genrés. Donc, il y a des jeunes non-binaires ou trans qui vont avoir de la misère à se retrouver là-dedans. Donc, on a fait ces changements-là, mais aussi dans la vie. La symbolique de l'espace dans la ville. Donc, la maison est clairement identifiée comme s'adressant à la communauté LGBTQ. Donc, on vient aussi rendre visible la communauté LGBTQ. Autre exemple, je parlais au début du patrimoine. Donc, à San Francisco, il y a quelques années, il y a eu toute une reconnaissance du patrimoine LGBTQ comme étant un patrimoine de valeur. Donc, il y a eu une étude de ce patrimoine-là, il y a eu une représentation de ça. Le National Park Service aux États-Unis a suivi. Donc, il y a eu toute une reconnaissance de quartiers LGBTQ historiques et ce type de choses-là. Mais je donne cet exemple-là aussi parce que la semaine dernière, sur le site du National Park Service, on a tout à coup effacé le TQ de LGBTQ.
Oui, tout
Donc,
à
pour
fait.
dire aussi que même s'il y a des projets réussis, il y a des améliorations qui sont faites, il y a de la reconnaissance de l'espace queer, on peut rapidement retourner en arrière. Puis ça, je pense que c'est un des gros enjeux aussi en ce moment en termes de défis. C'est si la société en général a peut-être des reculs, ben, qu'est-ce que ça va faire sur les espaces queer qui, déjà dans des conditions où la société est plus ouverte, c'est difficile d'amener cette inclusivité-là dans l'espace quand on a une société qui a des reculs ou qui est un peu plus oppressante à certains moments, ben, ça va être encore plus difficile de voir ce type de choses.
On a certainement l'occasion, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à nouveau, Olivier Valera.
Merci pour l'invitation.